Le mercredi 2 février, entre 17h30 et 20h30, on vous attend au Cégep de Lévis. cégeplevis.ca. Le joyau du Vieux-Port de Québec, l'Hôtel 71. C'est l'option originale pour une Saint-Valentin soulignée de la meilleure façon qui soit. Un séjour dans cet hôtel, boutique, primé, est conçu d'emblée pour raviver n'importe quelle flamme. Laissez-vous dorloter par l'ambiance enivrante de notre hôtel, par la cuisine italienne du restaurant Mato et émerveillez-vous du Vieux-Québec. L'Hôtel 71, voyagez en première classe chez vous. Informez-vous sur nos forfaits. En passant, le Mato, référence en cuisine italienne à Québec, bientôt à Lévis. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du Cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucon et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevis.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cégeplevis.ca.
Vapking est la meilleure boutique pour les articles de vapoteurs au Québec. Diversité, qualité et bien sûr les plus bas prix. Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Vapking, je l'étudie, Vapking!
Vapking, je l'étudie, Vapking!
Vapking!
Problème de crédit? Besoin d'une voiture? LBBauto.com.
L'alternative radio.
Oui, les paupiètes, pour réentendre la chronique de Yann Roche dit, je me remettrai pas les plaies ou de la misère. 969FM.ca, 5 minutes avant le show. Ça, ça veut dire 18h05. Pendant les deux snooze, vous l'écouterez cette nuit. La circulation, comment ça va?
Mais il n'y a rien sur la rive nord. Tout va bien, on est au vert sur la rive nord. Pour ce qui est de la rive sud, léger ralentissement à l'hauteur de chemin des îles, ça s'étire ouais, quasiment jusqu'à Taniata, puis par après, on est au vert.
Merveilleux, merci. T'as un dilemme.
Ouais. Ben là, j'ai un petit dilemme parce que mon garçon, ben écoute, oui, c'est rentré dans les écoles secondaires. Mon garçon a la COVID, puis juste te dire, ils sont une dizaine dans la même classe.
Puis il était pas chez vous, il était chez son père. T'as le droit d'être là.
Il était chez son père, effectivement, oui, j'ai le droit d'être là. Le dilemme est que là, lui, il habite avec son père, sa belle-mère et ses
deux filles à elle.
Sœurs, ouais. Puis eux autres, ils ont toutes pas la COVID encore parce qu'il vient de tester positif.
Ouais.
puis moi, je l'ai eu il y a 3 semaines. Moi, j'ai eu la COVID il y a 3 semaines, puis j'ai déjà 2 doses de vaccin. Bon, fait que ouais. Là, je me dis, c'est-tu mieux qu'ils viennent chez moi? Parce mm-hmm. que moi, ça fait 3 semaines que je l'ai eu. Fait que d'après moi, là, tu sais, je vais-tu pouvoir leur pogner tout de suite?
Moi, je suis certain qu'il dirait ressouté. OK? Et Rémi, qui n'est pas là ici, parce que sa blonde avait la COVID la semaine passée, et la science lui a dit de rester chez lui avec sa blonde. Et qu'est-ce, il l'a pogné.
Ben, c'est ça que je me dis, parce que là, ce que moi, je voudrais éviter, c'est que les deux petites puissent plus aller à l'école parce qu'il va lui donner la COVID, puis que là, Catherine soit prise, puis que Marco aussi soit pris pour rester à la maison. Tandis que moi, vu que je l'ai eu là 3 semaines, je pense que je
t'ai. T'as une immunité, pas pire. T'as 2 doses, puis ça, là.
Je pense que je serais pas pire.
Bien placé. Puis d'ailleurs, Adrien Pouliot va nous parler d'immunité collective. Il y a des chiffres qui sont sortis là-dessus. Une hérésie il y a peu de temps. Et on commence à redécouvrir la patente. On n'a pas le choix. Salut, Adrien.
Hey, salut.
Content de te retrouver. T'as passé un beau voyage de ski?
Oh oui. C'est bizarre. C'est un centre de ski qui est sur la frontière entre le Nevada et la Californie.
Tu vois, je m'étonne de ça. Pareil, je savais qu'il y avait des centres de ski en Californie. C'était lointain un peu dans ma tête. Nevada, c'est encore plus chaud. C'est désertique. Peux-tu nous changer d'idée 2 secondes avant qu'on rentre dans le sujet d'actualité, nous décrire un peu ce que tu as vécu, à quoi ça ressemblait, tout ça?
Ben, en fait, c'est la montagne est sur le bord du lac Tao.
Okay,
le lac Tao, c'est après les grands lacs, c'est le plus grand lac aux États-Unis qui a une profondeur de 500 mètres, donc 1500 pieds. Wow. Et c'est un lac qui ne gèle pas. Il n'est pas gelé. En plein hiver. Alors tu descends un peu, ben, je ne sais pas si tu fais du ski, toi, tu t'es descendu à Petite-Rivière-Saint-François, là, au massif. Tu descends, tu as l'impression de tomber dans le fleuve.
Ouais.
C'est un peu. On a un petit peu la même impression en skiant Heavenly, ce centre de ski-là. Donc, d'un côté, tu vois le lac Tao, qui est énorme. Et de l'autre côté, tu vois la plaine désertique du Nevada. C'est tout brun. Il n'y a pas de neige. C'est tout brun. Il n'y a pas des cactus, mais pas loin. Mm-hmm. C'est vraiment très, très désertique. C'est vide. J'ai eu un ciel bleu avec pas un nuage pendant une semaine. Alors vraiment, wow. C'était un paysage extraordinaire. Et au niveau de la COVID, ben, c'était un peu bizarre parce que tu marches. Littéralement, là, tu es dans l'hôtel, puis tu sors de l'hôtel, tu fais trois pas, puis tu changes d'état. Tu sais, ouais. Finalement, l'hôtel.
Les Californiens sont pas mal plus capotés que le Nevada là-dessus. Ouais.
Et tout le monde, finalement, suivait les règles de la Californie, donc des masques dans les gondoles, des masques dans au restaurant, dans le restaurant sur la montagne. Bon, tu n'es pas habitué, mais c'est un peu bizarre parce que quand tu traverses au Nevada, à un certain point, on est allé dans un restaurant. Et, tu sais, on finit par faire l'habitude, je sors mon téléphone portable pour montrer la photo de ma vaccination. Puis la fille, elle me regarde, elle dit, « We don't do this here.
Ben. »
On fait pas ça un titre, là. On veut rien savoir de ça.
Ils doivent tous mourir tout le temps.
Ils vont tous mourir.
La neige était comment avant qu'on continue?
Écoute, il est tombé 150 centimètres excuse-moi, 150 pouces en décembre. Mais il n'y a rien tombé depuis. Donc, il y avait une très grosse base, une base très solide, mais il n'y avait pas de poudreuse, là. Mais c'est pas grave.
Ouais, belle escapade, il n'y a pas de doute. Je suis content pour toi. Et là, on reste aux États-Unis parce qu'on parle de données que le Center for Disease Control a amené à la connaissance du grand public, c'est-à-dire de quoi sur l'immunité collective. Moi, j'ai questionné là-dessus.
C'est l'immunité naturelle, pas l'immunité collective. C'est pas la même chose.
Ah, OK, désolé. Bon, naturelle, c'est-à-dire c'est pas celle du vaccin, c'est comme le riz qui l'a attrapé.
Oui.
C'est ça. Alors, okay. Je ne sais pas si vous autres vous êtes comme moi, mais moi, c'est incroyable le nombre de personnes que je connais tout d'un coup qui l'ont eu.
Ah, je l'ai dit tantôt, la première vague, personne. Deuxième vague, quand même,
ouais.
Mais aussi deux malades. Là, cette vague-là, tout le monde,
ouais.
Puis vraiment personne de dans une situation terrible. Mais ça s'est répandu comme jamais.
Ah oui, écoute, on est allé souper avec des amis, puis le gars m'a dit, ben, en fait, il m'a invité chez lui, puis il m'a dit, il faut que je te dise, Adrien, j'ai eu la COVID. Ah, ouais, OK. Il y a trois semaines. Ah, okay.
OK.
Ma femme, elle a peut-être eu aussi les enfants, tout ça. Alors, c'est plein de monde comme ça. Mais je te dis ça parce que la CDC américaine, donc un peu la santé publique américaine, vient de publier une étude qui a suivi, une grosse étude, là. Ils ont suivi plus qu'un million de personnes en Californie et dans l'État de New York.
OK.
Et l'étude finit par... Ça démontre que l'immunité naturelle, donc celle qui est acquise par infection, est beaucoup plus efficace pour prévenir l'hospitalisation et encore plus efficace pour prévenir l'infection par rapport à la seule vaccination.
Ça confirme les études précédemment. J'en avais pogné une dans Bloomberg qui disait que c'était x13. Là. Il y a quelques mois, j'avais attrapé ça. Ouais. Mais c'était remis en question, évidemment, tout de suite. Il y a plein de monde qui a sauté là-dessus pour dire « la peer review n'est pas bien faite ». Là, il y a une confirmation, puis c'est CDC lui-même qui l'amène.
Oui, c'est ça, CDC elle-même. Et en plus, l'étude démontre que vacciner quelqu'un qui a déjà eu la COVID, ça ne change pas grand-chose. Ça ne réduit pas vraiment de façon importante le risque d'hospitalisation. Alors, on s'est fait dire aussi que l'immunité naturelle ne durait pas longtemps. Je ne sais pas si tu te rappelles là, ça va peut-être durer trois mois, six mois, puis évidemment, ceux qui connaissent, moi, je suis pas un chercheur, je suis pas un scientifique, mais il y a un paquet de gens que je lisais qui ont vécu ça tout le temps, puis qui disent, faut que tu l'as, là, ça dure des années puis des années, tu sais, mais les scientifiques, ils peuvent pas te dire ça va durer 10 ans parce qu'ils ont pas de preuves, tu sais, c'est un nouveau virus.
Mais ça dépend des gens.
1%. C'est ça. Alors donc, finalement, il y a une étude qui est aussi en pré-publication, donc il n'a pas encore été vérifié par des pairs, qui a été publié par le professeur Macari de la Johns Hopkins School of Medicine, là, c'est pas n'importe quoi, qui affirme que lui a suivi 295 personnes non vaccinées qui avaient été précédemment infectées, puis il a dit il y a des anticorps présents dans 99% des cas jusqu'à près de 2 ans après l'infection. Deux ans, depuis le début, tu sais.
Ouais.
Et il n'y a rien de nouveau. Là. Comme tu dis, il y a une centaine d'autres études qui ont démontré la même chose. entre autres en Israël, qui disait que l'immunité naturelle était 27 fois plus efficace que l'immunité acquise par vaccination pour réduire la maladie symptomatique. Alors, dans un sens, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux, pour les Québécois qui sont pas vaccinés, parmi les 800 000 Québécois officiellement infectés puis rétablis selon l'INSPQ, ben, 800 000, en tout cas, et moi, on sait que c'est plus que ça, là, parce que là, il n'y a plus personne qui rapporte rien. C'est genre tout le monde la poigne, puis
on rapporte pas ça, tu sais, maintenant.
Alors, là, la question que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'on impose une taxe aux gens qui sont pas vaccinés et qui ont eu la COVID, s'ils ont moins de chances d'occuper des lits d'hôpitaux que les vaccinés?
Parce qu'on est dans l'hystérie, tu sais, il y a plus à en faire la preuve, mais ça, c'est la plus probante. Et des tests sérologiques, ça fait longtemps que j'en demande ici.
Ben oui.
Et j'ai pas vu le moindre effort de fait pour en acquérir. Puis ça me fait penser aussi aux antiviraux. C'est le tout au vaccin, mais à un degré qui moi, ça me fait paranoïer. Voyons, Christian Dubé, c'est un gars intelligent. Comment il peut être aussi dans le déni puis dans une attitude avec des ornières puis de foncer vers de quoi qui est clairement pas la bonne direction, en plus en ostracisant du monde, en escamotant les libertés fondamentales d'une démocratie libérale comme si c'était rien. Ça dépasse l'entendement.
Là, tu utilises des beaux mots savants, tu sais, mais il y a du monde, là, qui ont été congédiés, là.
Ah oui. Exact.
Hein? Parce qu'ils sont non vaccinés.
Exact. Ils ont perdu le gang-pain pour nourrir leur flot.
Alors, tu sais, tu dis, waouh, c'est quand même beaucoup, là. Quelle est la science? Sur quelle base scientifique est-ce que les grands prêtres de la santé publique qui ont ruiné des vies en insistant pour que des travailleurs naturellement immunisés soient congédiés s'ils n'étaient pas, entre guillemets, adéquatement protégés, là, selon leur définition? Tu sais, ces gens-là, là, on leur doit des explications.
Paranoïes-tu un peu des fois, Adrien? Sérieux, moi, j'ai résisté à toutes ces théories-là qui disaient qu'il y avait un plan, puis je résiste encore à déterminer ce serait quoi ce plan-là, mais j'en suis rendu. J'ai pogné, oui, le boss du Forum économique mondial, Klaus Schwab, parler de transparence totale, puis dire, si t'as rien à te reprocher, c'est pas grave que l'État soit partout autour de toi puis observe chacun de tes faits et gestes. Es-tu rendu un peu plus parano? Parce que moi, ça m'a pris du temps. Je sais pas si toi, tu te situes là-dedans.
Ben écoute, non, moi je suis encore comme toi, je résiste parce que je me dis que le gouvernement n'est même pas capable d'avoir un système de paye qui a de l'allure pour payer ses employés. Alors, comment est-ce que tu peux vraiment organiser une conspiration mondiale?
Ils savent pas, t'as rien qu'à leur faire peur. Pis...
Mais je vais te dire d'autres choses par contre. Moi, ce que j'ai déjà écrit il y a un an, c'est qu'il y a un mouvement, pas nécessairement organisé, ben, en tout cas, il y en a qui disent que c'est peut-être organisé, mais il y a un mouvement vers la gauche.
Ouais.
Je te dirais, pas mal général en Europe, en Amérique, un peu partout, là, où la gauche est de plus en plus présente, puissante, les syndicats...
ça censure ce qui... Ou ça exclut avec une catégorisation sur un geste puis une personnalisation des débats comme jamais. Fait que ça se cristallise de plus en plus vite. Puis, ben oui, c'était peur. Hein, j'aime ça. C'est peut-être juste...
Et tu sais, Guillaume, on parle beaucoup de nos voisins du Sud, puis on parle... Tu sais, les Canadiens, on dit souvent, le pays, les États-Unis sont divisés, puis tu sais, ils s'entendent pas, puis ils sont toujours en chicane, puis les républicains et les démocrates, puis ils s'haïssent, puis bon, c'est divisé, tu sais. Mais la raison pour laquelle il y a une division aussi puissante, un clivage aussi puissant, aussi gros, aussi visible aux États-Unis, c'est que les gens de la droite ont décidé to fight back. Ils ont décidé que non, on ne se fera pas emporter par la vague de gauche qu'on voit au Canada, qu'on voit en France, qu'on voit en Allemagne, qu'on voit partout ailleurs. T'sais. Ils ont dit, we're going to fight back. Nous, là, non, c'est pas vrai qu'on s'en va vers la gauche. On reste plus c'est de la droite économique. On veut protéger les droits et libertés individuelles. Ouais. Et donc, il y a un clash. Il y a un clash. Alors, tu
as plus...
versus CNN, tu sais.
Ben oui, mais les médias américains, par exemple, ça reste majoritairement à gauche. Puis c'est beau de voir cette résistance-là de l'autre côté, avec sans cet appui-là. Puis souvent, il y a de la difficulté à mettre ça dans des mots qui peuvent convaincre des progressistes qui souvent ont des CV puis des études un peu plus prononcées, s'assoient là-dessus justement, puis ils comprennent pas plus, puis ont perdu cet instinct-là.
Mais moi, quand j'ai vu les camionneurs, là...
Bon, allons-y.
Tu sais, non, mais je sais que vous en avez parlé beaucoup, mais pour moi, là, j'ai capoté, tu sais, j'étais tellement heureux parce que les Canadiens, on a tendance à s'écraser devant le pouvoir public, c'est l'État, surtout, je te dirais, au Québec puis en Ontario, puis peut-être en Colombie-Britannique, moins en Alberta, Manitoba, Saskatchewan. Mais là, de voir la population en général, c'est sur les viaducs, sur le bord des autoroutes, à Ottawa. Et puis moi, je me suis fait sur mon café quand Trudeau a dit « Ah, c'est une petite gang, puis ils ont des... » Non, mais tu sais, la petite gang, là, maintenant, là, c'est le gouvernement. C'est eux autres, maintenant, qui sont en minorité. C'est eux autres qui sont à contre-courant. Je pense que c'est assez clair qu'il y a une grosse minorité de personnes là qui sont vraiment, qui en ont vraiment ras-le-bol. Non seulement il y en a ras-le-bol, c'est pas seulement le temps, tu sais, c'est pas seulement que ça fait 2 ans, c'est que on nous raconte n'importe
quoi. Exact, exact. Oui, du ras-le-bol, ça m'énervait le terme parce que j'associais ça avec on les présente comme si ils sont impatients puis ils comprennent pas. Mais c'est ça, c'est aussi ces mensonges-là. Juste François Legault en a une dizaine d'énormes à son actif, un après l'autre. À un moment donné, le monde n'est pas fou à temps plein. Il accepte plus ça. Puis c'est rien que ça. Ne serait-ce que ça, c'est légitime parfaitement qu'il y ait une levée qui s'est opérée en fin de semaine. Évidemment, on condamne les extrémistes, puis des proches qui ont dansé sur la tombe du soldat inconnu, etc., qui se sont fait ramasser par les manifestants rapidement en passant, etc. Mais
t'as vu la statue de Terry Fox là, qui a été salie là. Ouais. 5 minutes après, il y avait du monde autour pour la nettoyer. Là.
Exact. Ça n'a pas passé aux 18h, pardon.
Non, ça passe pas là.
par exemple, Erin O'Toole, j'étais sur Twitter pas mal toute la journée. Le seul tweet que j'ai vu, puis c'était 4, là. Un, deux, trois, quatre. Sur ça, seulement, rien d'autre pour parler de contrer ces obligations-là, puis ces mesures-là qui violent la Charte des droits et libertés. Rien d'autre que ça. Comment t'expliques que ce gars-là puisse être silencieux à ce degré-là, alors que, premièrement, c'est attirant, c'est alléchant pour n'importe quel chef de parti, mais deuxièmement, tu sais, la logique est là. Il a tout le temps été ses briques solides, lui, dans le dossier de la COVID. Ta perception.
Ben, tu sais, je comprends qu'à chaque fois qu'un politicien dans l'opposition ouvre la bouche, là, il faut qu'il dise, la première chose qu'il faut dire, c'est on est contre la violence.
La génuflexion est au menu tous les jours maintenant.
Il faut le répéter. Oui. C'est pas parce que... Puis d'ailleurs, l'autre chose qu'il faut dire, puis que j'ai mis sur mon Twitter, puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions là-dessus, c'est que tu peux être avec les camionneurs. Ça veut pas dire que tu es contre les travailleurs de la santé. Ils ont les médias ont opposé les... Non!
C'est rempli de travailleurs de la santé là-bas. Rempli.
Puis deuxièmement, nos travailleurs de la santé, on les apprécie, on les remercie, ils travaillent fort, ils sont stressés, bon, tout ça. Mais la raison pour laquelle ils sont stressés, c'est qu'on a un système. C'est pas de leur faute, là, c'est pas mal. C'est un système de santé qui est tout croche.
Mais là-dessus, juste. Moi, je mets une petite nuance, puis je veux pas les attaquer en général. Puis encore moins ceux-là qui sont capables d'outrepasser cette vision-là. Mais je travaille fort, fait que tout le monde, toute la société devrait s'arrêter. Ils ont refusé toutes les propositions de réforme qui leur ont été présentées au cours des dernières décennies. Ça a toujours été non. Ben, à un moment donné, si tu ne t'occupes pas de ton syndicat, il va s'occuper de toi aussi. Ça, tu sais, il y a des responsabilités là. On n'a pas le goût d'insister là-dessus plus qu'il faut, mais tu sais, à un moment donné, ça, je l'ai répondu à quelques personnes. Il y en a qui m'ont trouvé raide sur les réseaux sociaux avec ça. Mais C'est ça pareil. Puis les camionneurs, c'est pas des camionneurs. C'est des gens qui prennent leur responsabilité pour qu'on s'assure que les fondements de la démocratie ne soient pas relégués au rang de niaiserie. Mais oui, cette opposition-là est très. Ça conforte des gens qui veulent continuer à se mettre la tête dans ça. Mais il y a beaucoup aussi de. Ils ont tellement été insistants dans leur position champ gauche tout ce temps-là que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Changer d'opinion. C'est très rare que tu vas, devant un discours, même s'il est convaincant, accepter de rechef de revirer ton fusil d'épaule. Changer ton fusil d'épaule. Mais Erin O'Toole, pareil.
Ben écoute, non, mais t'as raison. Moi, je suis un peu déçu. J'ai parlé à M. O'Toole une couple de fois, puis bon, je comprends son. Tu sais, sa stratégie, lui, je la comprends, tu sais, il veut essayer d'avoir le plus de monde possible dans la tente conservatrice pour pouvoir éventuellement prendre le pouvoir. Tu sais.
Ouais, alors, ça, c'est
donc,
délicieux.
Par exemple, dans sa campagne, il a parlé qu'il voulait il voulait s'approcher du mouvement syndical.
Ouais, ça a été smart, ça. Quand il y a une faillite, que les employés passent avant les banques, c'était le temps que quelqu'un présente ça. Ça aurait dû être l'NPD, l'autre s'est échappé tout ce temps-là. Lui, il arrive avec ça. Waouh! Et oui,
c'est un repositionnement qui est assez opportuniste. Puis moi, je pense qu'il a raté une occasion, il a raté une belle occasion ici. Tu sais. Hey. Mais ça prend, honnêtement, là, ça prend beaucoup de couilles. Puis moi, je ne veux pas dire que j'en ai nécessairement, mais quand au mois de mars ou au mois d'avril 2020, j'ai dit, mais là, c'est bien beau le confinement, mais il ne faudrait pas que le remède soit pire que la maladie.
Hey!
Guillaume, je me suis fait blaster, là.
Tu dois avoir un lit de bronzage à la maison. Trump avait dit ça.
Il y a plein de monde qui m'ont dit dans mon parti, là, attention, Adrien, tu sais, attention à ce que tu dis, puis tout ça. Pis,
la peur, c'est fort.
Il fallait faire. Tu peux pas mettre l'économie avant la santé, puis c'est plus important, la santé. Non, mais tu mets pas. C'est pas un contre l'autre, c'est comme. C'est pas les travailleurs de la santé contre les camionneurs.
Mais c'est l'économie qui paye le système de. C'est l'économie qui paye le système de santé. Il me semble que ça prend pas Einstein pour catcher ça non plus.
Mais écoute, ça prend quand même des valeurs solides. Il faut que tu sois. Philosophiquement bien assis, un peu comme vous autres vous l'êtes, pour être capable de, quand ils vantent un peu, parce que c'est facile de dire n'importe quoi quand ils vantent pas puis que la mer est calme. Mais quand la mer est très houleuse, puis tu tiens le gouvernail, ben il faut qu'il y ait des valeurs solides pour garder la bonne direction.
Tu sais, j'y ai parlé aussi, je sentais qu'il y avait un bon fond conservateur, pareil, dans bien des aspects de sa présentation. Puis bon, il focussait là-dessus parce que oui, il avait été accusé d'être un Red Tory, là. Mais là, tu sais, c'est sûr que ça fait beaucoup de grogne. Puis juste un petit mot, Pierre Poilievre, moi personnellement, c'est mon cheval.
Ce gars-là est incroyable. Je l'écoute. Quand il parle, c'est critique en économie du Parti conservateur, là, il est fantastique. Mais là, je l'ai découvert aussi sur un autre angle. Parce que, tu sais, hier ou avant-hier, il a répondu à un journaliste qui disait ben là, il y a des camionneurs qui détruisent des choses, puis qui. C'est sûr que dans une gang de 20 000, c'est un beau mesquichon.
Il n'y a pas un mouvement exempt tout croche, c'est jamais arrivé, même les lois civiques dans les années 60 avec MLK. Bon.
C'est ça. Mais alors, il disait à Poilievre que, il dit, moi, là, quand je reçois, j'ai déjà reçu des menaces de gens qui n'étaient pas d'accord avec ce que je disais, puis des gens de la gauche, tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai pas conclu que tous les gens de la gauche voulaient m'assassiner ou voulaient me faire du tort. Là. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a toujours du monde, il y en a toujours qui vont faire des conneries, mais il faut pas conclure que tous les gens sont comme eux. Alors oui, c'est bien certain qu'il y a une coupe de têtes de pommes pourrites, là, comme on dit, dans le baril, mais les gens qui sont allés là, moi j'ai vu, t'en as vu des photos, là, c'est du monde ordinaire, oui. Là, c'est pas du monde, c'est pas des diplômés universitaires, il y en a probablement, mais tu sais, c'est le monde ordinaire qui dit, hey, ça va faire, là. T'sais, on est écœurés. Puis comment ça se fait qu'aux États-Unis, puis en Angleterre, puis partout ailleurs, ils sont en train de déconfiner, puis nous autres, on y va mollo. T'sais, ça fait 2 ans qu'on y va mollo. Ben, on est tannés, là.
C'était ça. C'était pas non plus du défoulement. C'est une compréhension instinctive qui est difficile à mettre en mots, mais qui est généralement ça. Ben oui, il y a des trucs roches. Penses-tu qu'il va y avoir une course à la chefferie au Parti conservateur prochainement? Erin O'Toole est un peu dans l'eau chaude. Puis Pierre Poilievre pousse. Je vois qu'il ramasse des appuis. Justement, il a pas voulu se taire alors que la ligne de parti était en sens contraire. Petite perception sur ça. À court terme?
Ben écoute, j'ai l'impression que...
Fédéral, évidemment.
Moi, je pense que... Je pense que... On a eu une démonstration que... on a manqué une maudite belle opportunité. Le Parti conservateur fédéral a manqué une maudite belle opportunité de battre Trudeau, là. Je veux dire, il était battable. Il aurait pu être battu. Il était pas.
Hey, il s'est sauvé de la ville.
C'est ça, il y avait tout ça. Mais il y avait toutes sortes de raisons pour lesquelles le Parti conservateur aurait dû gagner. Oui, ils ont eu plus de votes. Tout ça, là, tu sais. Mais en tout cas, c'est une grosse déception. Puis.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui.
La prochaine élection, c'est encore loin. Il y a encore bien des choses qui peuvent arriver d'ici la prochaine élection fédérale. Là.
Bon. Ben, on va suivre ça ensemble, Adrien. C'est toujours un grand plaisir de collaborer. J'apprécie énormément. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, tu es présent sur Twitter, Facebook, d'autres choses?
Ouais. Non, surtout ces deux-là.
En masse. Merci beaucoup.
Salut à vous trois. Bye.
Bye.
Adrien Pouliot,